Merci d'écouter Radio Okapi. C'est l'heure de vous informer. Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Nous allons commencer par ces recherches qui se poursuivent pour retrouver les 50 prisonniers qui se sont évadés de la prison de Luebo au Kasaï. Face donc à cette situation, l'administrateur du territoire recommande aux services de sécurité de l'État de retracer impérativement les mouvements de ces fugitifs afin qu'ils soient arrêtés et remis en prison. Ensuite, nous allons parler de la fin des consultations initiées par Raphaël Katebe-Katoto. Satisfait après ses consultations, il affirme au cours d'une conférence de presse de garder la primeur de ses échanges avec les habitants de Lubumbashi au chef de l'État. L'invité de ce journal est Rachel Mouloulou et les points focaux de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité. Sa structure poursuit son plaidoyer en faveur d'une participation accrue des femmes aux mécanismes de coordination humanitaire et aux instances décisionnelles liées au processus de paix. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bon week-end à tous. L'actualité, c'est d'abord les recherches qui se poursuivent pour rattraper les 50 détenus de la prison de Luebo au Kasaï. Ces prisonniers se sont évadés dans la nuit de jeudi à vendredi dernier dans cette maison carcérale. Coup dur pour l'administrateur de ce territoire qui confirme cette évasion. Jean Chauke ou Chauke, qui qualifie d'ailleurs cet incident de coup bien préparé par certains agents de services de sécurité. Cette autorité politico-administrative regrette que même les détenus dangereux aient réussi à prendre la fuite au risque de plonger la région dans l'insécurité. Face donc à cette situation, l'AT recommande aux services de sécurité de l'État de retracer impérativement les mouvements de ces fugitifs afin qu'ils soient arrêtés et remis en prison pour répondre de leurs actes devant la justice. Jean Chauke ou Chauke le dit au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
Aucun donc prisonnier n'y s'y trouve donc dans l'enceinte de la prison. Nous sommes dans l'insécurité et puisque voire même les gardiens de la prison sont partis, il y a 3 armes qui est emportées et les prisonniers sont sortis dans des portes étroites donc de la prison. Les cadenas n'étaient pas ouverts. En fait, on a seulement détruit la porte ainsi que tout autre matériel qui aide donc à mieux sécuriser la fuite ou l'évasion de prisonniers. Ils sont tous partis et nous regrettons donc ce qui s'est passé dans cette prison. C'est au peuple de Luebo de pouvoir nous aider, de pouvoir aider l'État là où ils verront donc un prisonnier, de pouvoir l'arrêter afin de le faire retourner donc dans la prison pour que la justice fasse un peu son travail, puisque le procureur ne saura pas sur quel pied il va danser.
Sur un tout autre chapitre, les Katangais ont désormais un tout nouveau palais de justice. Il a été inauguré hier samedi à Lubumbashi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce palais de justice moderne à 2 niveaux comprend notamment plusieurs bureaux administratifs, des salles d'audience, un système moderne de vidéosurveillance et un système anti-incendie. Cette infrastructure va abriter entre autres la cour d'appel, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce, le tribunal pour enfants et d'autres juridictions. Notez enfin que cet ouvrage a été construit sur fonds propres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Et puis Raphaël Katebe-Katoto, satisfait après ses consultations avec les habitants de Lubumbashi. Ce notable du Grand Katanga a clôturé ses échanges hier samedi avec les différentes couches de la population. Au cours d'une conférence de presse tenue toujours hier, il a annoncé qu'il réserve la primeur des résultats de ses consultations au chef de l'État. Pour lui, ces échanges ont permis de cerner les vrais problèmes de la communauté. Mais il précise tout de même que ces consultations n'ont pas de motivation politique. Les propos de Raphaël Katebe-Katoto sont recueillis par Paul Mounanga.
J'ai écouté toutes les formations culturelles, sociales, donc j'ai écouté tout le monde. Et ça m'a permis de cerner les vrais problèmes de la communauté. Ma démarche, c'était d'aller jusqu'au fond pour mieux comprendre les problèmes de la communauté. Et les problèmes de la communauté, c'est son quotidien, la sécurité, la cohabitation. Donc les trois points importants. Aujourd'hui, changement de la Constitution, ce n'est pas encore d'actualité. Et je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour la communauté, pour aller toucher, palper les vrais problèmes de la communauté. Son quotidien, c'est ça qui m'intéresse. Je suis très satisfait parce que les enfants du Katanga m'ont parlé à cœur ouvert. Ils se sont confiés à un des leurs. Ils ont parlé librement et franchement. J'ai les doléances, j'ai les mémos présentés par les composantes et que je présenterai au chef de l'État à qui je réserve la primeur. Quelles sont les solutions qu'il trouvera? Parce que c'est lui le chef de la nation, c'est lui qui décide.
L'actualité, c'est encore, vous vous en doutez, la célébration de la journée du 1er août intervenue hier samedi. Une journée dédiée aux souvenirs des parents et des personnes décédées. Et nous allons cette fois à Bandundu-Ville, où une organisation de la société civile monte au créneau. Elle dénonce la spoliation de l'ancien cimetière de Ngimilele dans cette partie de l'ancienne Bandundu. Cette association appelle ainsi les autorités à préserver ce site historique et annonce déjà faire des démarches pour obtenir sa protection. Des précisions dans ce reportage de Jean-Claude Tangamou de Radio-Télévision Bandundu Développement, rendu par Gloriane Lepeya.
Célébration de la journée consacrée aux souvenirs des parents et des personnes décédées, l'association pour la défense des intérêts de la ville de Bandundu dénonce ce qu'elle qualifie de spoliation dans l'ancien cimetière de Ngamilele situé au quartier Maza dans la ville de Bandundu. Au cours d'un point de presse, les présidents de cette structure citoyenne affirment que plusieurs portions de cet ancien site funéraire auraient été attribuées à des privés par certaines autorités provinciales. Selon lui, cet espace chargé d'histoire et des mémoires collectives devrait être préservé.
Nous mettons en garde toute personne qui viendra ou toute autorité de la ville ou de la province qui mettra sa patte ici pour prendre un morceau du terrain ici de la cimetière. Nous constatons que les autorités sont venues pour accaparer ces terrains. Nous demandons au chef de l'État et au Premier ministre de chercher comment s'impliquer à ce dossier.
L'Association pour la défense des intérêts de la ville de Bandundu annonce par ailleurs le lancement prochain d'une série de démarches citoyennes et administratives afin de faire entendre sa voix et d'obtenir la protection de l'ancien cimetière de Ngamilele. Il convient de préciser que les autorités provinciales mises en cause n'ont pas encore réagi à ces allégations.
Le 1er août, c'est aussi la fête des parents ici en RDC. Une journée dédiée à celles et ceux qui, chaque jour, assument la lourde responsabilité d'éduquer et de protéger leurs enfants. Mais pour de nombreuses familles, notamment les veuves, cette mission se conjugue avec de multiples difficultés. Entre sacrifices, résilience et appel à la responsabilité, un reportage signé Jean-Claude Lokidile.
Être parent, c'est d'aimer, protéger et préparer l'avenir de ses enfants. Mais lorsque le père disparaît, la charge familiale repose souvent sur les seules épaules de la mère. Depuis le décès de son mari, Chantal Abombé, mère de trois enfants et agente de l'administration publique, mène un combat quotidien pour nourrir sa famille et assurer la scolarité de ses enfants et faire face aux dépenses quotidiennes.
En tout cas, que l'État d'abord nous aide, nous autres là, qui travaillent pour la nation, de nous donner les matricules.
Une réalité que partage cette autre mère, veuve depuis 5 ans, pour faire vivre ses enfants et s'est lancée dans une petite activité génératrice des revenus. Malgré les difficultés, elle refuse de baisser les bras, convaincue que l'avenir de ses enfants dépend de ses efforts. Jérogine Mawango.
Depuis que j'ai perdu mon mari, la vie devient intenable. J'ai réussi à créer une petite activité commerciale qui m'aide à prendre en charge mes enfants.
En cette fête des parents, les voix se rejoignent pour rappeler qu'être parent est avant tout une responsabilité qui se mesure chaque jour dans les sacrifices consentis pour l'éducation, la protection et l'avenir des enfants. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Capu.
Place à présent à cette colère des habitants de la 18e rue à Limété. En tout cas, la tension était vive hier samedi à la suite des opérations de démolition menées dans cette commune de Kinshasa. Sur le terrain, des habitants affirment avoir été surpris de l'ampleur de l'opération de démolition qu'ils jugent abusive car lors des précédentes démolitions, les 15 mètres exigés avaient été respectés. Raison pour laquelle ces personnes ne comprennent plus le pourquoi des prochaines démolitions. Ainsi, ils accusent le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, d'ordonner les destructions au-delà du périmètre prévu. Au regard de toutes ces incompréhensions, les riverains demandent aux autorités provinciales de clarifier les limites de cette décision. Suivez le témoignage d'une victime. Ces propos sont recueillis par Ella Chembalo.
Le ministre Léon Moulumba est venu ici accompagné de la police militaire pour nous menacer. Lors de sa première descente, leur mission a échoué et ils sont repartis. Ils sont revenus une deuxième fois avec des policiers et un colonel, déterminés à tout casser. Aujourd'hui, ils sont revenus pour la troisième fois, toujours accompagnés des policiers. Il nous a demandé de lui remettre de l'argent ainsi que nos livrets parcellaires, en promettant de partir avec ses documents les lundis pour nous les restituer les mardis. Nous avons refusé. Il nous a alors averti qu'il reviendrait tout démolir. Pourtant, le président avait déjà indiqué les 15 mètres à libérer. Cette partie-là a été déjà démolie. Cette fois-ci, il est entré dans nos avenues et s'en est pris aux habitations des riverains. Je ne comprends pas ce qu'il cherche réellement. Lorsque les jeunes se sont mis en colère, les policiers qui l'accompagnaient ont tiré 9 coups de balle. Heureusement, tout le monde a pris la fuite. Sinon, l'un d'entre eux aurait pu être tué.
Contacté par Radio Capi, le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, a déclaré se prononcer sur cette situation mercredi prochain. C'est presque la même situation à Matadi où des dizaines de ménages vivent dans l'inquiétude en ce moment. Et pour cause, plusieurs habitations sont ciblées par des démolitions, mais là, c'est suite aux travaux de réhabilitation des voiries dans cette ville du Congo central. Un constat amer y est établi. Des constructions anarchiques sont nombreuses et plusieurs habitations se trouvent sur le tracé des routes à moderniser. Si certaines maisons vont être touchées en partie, d'autres par contre pourraient être totalement démolies. Entre-temps, les propriétaires concernés affirment avoir entrepris des démarches auprès des autorités urbaines, mais aucune solution n'a encore été trouvée. Détail avec vous, Élise Cavira.
Alors que les travaux avancent, l'inquiétude grandit chez les riverains. Entre peur et incertitude, ces familles disent attendre une réponse claire de la part des autorités. Cette mère de famille explique son désarroi.
Nous ne savons plus quoi faire. C'est vrai que nous avions reçu les notifications bien avant, mais une fois qu'on a construit sa maison, on ne pense plus à partir vivre ailleurs. Déplacer toute une famille, ce n'est pas facile. En plus, le maire ne nous dit pas clairement si nous serons indemnisés ou si tout est perdu pour nous. Cette situation est vraiment stressante et nous ne savons pas de quoi demain sera fait.
Contacté à ce sujet, le maire de Matadi tire la sonnette d'alarme. Il appelle à une prise de conscience collective, rappelant que la loi n'a pas d'émotion et qu'elle s'applique à tous sans distinction.
Il ne faut jamais aller au-delà de la route quand on construit. Les cadastres vont voir, l'urbanisme va voir. Si une parcelle est sur la route, à ce moment-là, on ne va pas vous indemniser. Mais si c'est l'État qui veut faire une déviation en empruntant votre parcelle, à ce moment-là, on vous indemnise, on vous paye votre argent équivalent au prix de la maison. Ce sont des expropriations, c'est l'État qui vous paye.
Les riverains, pour leur part, en appellent à l'indulgence des autorités pour qu'une solution soit trouvée avant toute démolition. Matadi, Élise Cavira, Radio Capi.
Éducation avant de terminer cette page nationale avec cette prouesse de l'université Mapone. Vous avez bien compris, nous sommes à Kindu. Les effectifs des étudiants de cet établissement universitaire passent de 500 à plus de 2000 cette année. Cet accroissement se justifie entre autres par la réduction des frais académiques qui était à $700 américains et est aujourd'hui à 350. Et les recteurs de cette université technologique est rassurant. Malgré ce nombre élevé d'étudiants, la qualité de la formation reste la même, dit-il. professeur Patrick Mobambo Kitou-Mengongo s'est exprimé vendredi lors de la collation des grades académiques. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Mission accomplie. En venant ici, j'avais une feuille de route. Et cette feuille de route a produit des fruits. Ce sont des stratégies. C'est l'expérience. C'est ce qui a fait que, connaissant le milieu, d'abord les frais académiques, $700, ici à Kindu, ce n'était pas donné à tout le monde. Et la plupart de ces étudiants pour la polytechnique venaient d'ailleurs. Pour alléger, bien qu'on ait baissé les frais académiques à 350, il y a eu d'autres petites stratégies. Notamment le guichet unique. Nous avons dit que, connaissant les milieux universitaires, hein, partout, les tracasseries, les demandes d'argent, des petits documents, tout petit papier qu'on signe, on demande de payer. Je me suis dit non, essayons. Et nous avons réussi parce que nous n'avons rien fait payer, c'est-à-dire les frais connexes. Les frais connexes, ça n'a pas existé chez nous ici. Et puis, ce n'est pas une entreprise qui doit produire de l'argent. Il faut que les gens comprennent que, à l'université, ce n'est pas pour produire de l'argent. C'est pour vous permettre de fonctionner comme l'État ne subventionne plus rien, eh bien, c'est que vous allez obtenir des étudiants là, que ça puisse vous permettre de fonctionner. Mais lorsque on transforme cela comme étant du commerce, du business, c'est là qu'il y a déviation.
Actualité internationale.
Plus de 50 000 migrants ont rejoint Ceuta depuis le Maroc en quelques jours, provoquant une crise diplomatique européenne. Au moins 67 personnes ont perdu la vie en essayant de gagner l'enclave espagnole. Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a dénoncé samedi 1er juillet l'attitude égoïste de certains pays de l'Union européenne. Une réunion des ministres de l'Intérieur de l'UE se tiendra mardi 3 août en visioconférence.
L'invité.
Au Nord Kivu, la synergie des femmes pour la paix et la sécurité poursuit son plaidoyer en faveur d'une participation accrue des femmes aux mécanismes de coordination humanitaire et aux instances décisionnelles liées au processus de paix. Cette question a été au centre d'un atelier organisé le 30 juillet à Goma, réunissant les organisations féminines membres de la synergie, OCHA, ainsi que la section genre de la MONUSCO. Pour en parler, nous recevons Madame Rachel Mouloulou, point focal de cette synergie au Nord Kivu. Dans cet entretien accordé à Bernadette Nyangui, elle revient sur les principaux axes de ce plaidoyer.
Rachel Mouloulou, bonjour.
Bonjour, papa journaliste.
Ce plaidoyer, c'est autour de quoi exactement?
La synergie des femmes, paix et sécurité est en train d'organiser les activités de plaidoyer sur la participation de la femme dans la recherche de la paix et la sécurité. Le constat est que le taux de la participation de la femme est trop bas. Alors, nous avions fait le plaidoyer auprès de OCHA, puisque même dans la coordination humanitaire, il y a très peu de femmes, tout au plus 30% des femmes qui participent au niveau de la coordination humanitaire, et au niveau national et au niveau provincial. Maintenant, il y a des conséquences pendant la distribution sur terrain pour la prise en charge des déplacés de guerre, la prise en charge des retournés de guerre, des personnes vulnérables, et il n'y a pas assez d'explications par rapport à la redevabilité. C'est pourquoi les femmes de la synergie s'étaient dirigées vers OCHA pour demander comment fonctionnent les différents mécanismes. Pour la journée maintenant du 30, pour nous c'est une réussite, ce sont les résultats du plaidoyer, puisqu'il faudrait une journée d'atelier plaidoyer pour nous expliquer comment fonctionne la coordination humanitaire, comment fonctionne la coordination au niveau provincial. Les clusters, est-ce qu'il y a les femmes? Est-ce qu'il y a la participation des femmes? Comment se fait même la répartition des financements, puisque les femmes sont à la première ligne toujours, mais avec insuffisance des moyens. Pour nous, nous avons vu qu'il y a encore beaucoup à faire, puisqu'il y a des stratégies qu'on devrait aussi réglementer pour que la femme puisse mieux participer, au moins à 80%. Même pour participer dans des clusters, il faudrait expliquer aussi ces mécanismes, et la femme continue à dire la participation de la femme est encore minime. Nous avons remis la note encore une fois de plaidoyer aux responsables de OCHA. Nous avons remis et même la lettre aussi de remerciement, puisque les le fait de continuer à plaider et arriver au niveau des résultats, pour nous, c'est une réussite.
C'est depuis quelques mois que vous avez émis ces notes-là de plaidoyer. Donc, vous estimez que ça n'avance pas vraiment par rapport aux réponses.
Oui, ce plaidoyer, nous l'avions commencé même depuis l'année passée. et ça n'avance pas puisqu'il n'y a pas augmentation des femmes dans ces mécanismes, quoi.
Alors, est-ce que à travers cet atelier plaidoyer, il y a eu quand même quelques recommandations importantes?
Il y a eu plusieurs recommandations et la principale est que nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine pour échanger, vulgariser aussi la feuille de route, puisque la conclusion c'était les recommandations qu'on venait de dire, c'était l'engagement des femmes, c'était aussi la proposition de la feuille de route. C'était là la conclusion. Et cette feuille de route, nous allons la vulgariser maintenant la semaine prochaine et nous allons partager à tout le monde et les plans stratégiques de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité. Nous allons aussi les partager, les plans stratégique pour que ces différents mécanismes puissent s'en approprier et renforcer aussi la participation et la proximité avec les organisations des femmes. Il y a aussi l'autre résultat très important au niveau de la MONUSCO, puisque nous avions fait aussi un plaidoyer au niveau de la MONUSCO. Parmi les recommandations et résultats est qu'il y aura un cadre de concertation de toutes les femmes et on se réunira chaque mois pour comprendre comment se passent les informations fiables, pas rester seulement au niveau des réseaux sociaux, au niveau des rumeurs, donc échanger par rapport aux différentes informations qui cadrent avec la participation de la femme dans la recherche de la paix et la sécurité. Et on fera des assises au moins chaque mois.
À quoi est-ce que vous pensez que cela pourrait aider les femmes? Si une fois vous êtes répondu par rapport à cette demande-là et que les femmes se retrouvent représentées.
Il y aura beaucoup d'impact puisque vous ne pouvez pas parler de mes besoins, moi femme, sans moi. Donc c'est la femme qui connaît mieux les besoins des autres femmes. Il y a les femmes qui continuent même à réclamer. Il y a les femmes pygmées. Il y a les femmes vivant avec handicap. Les besoins de toutes ces femmes, ce sont des besoins spécifiques. Si la femme, elle est là, partout dans ces mécanismes, la femme mettra l'accent sur les besoins spécifiques de chaque catégorie de femmes, alors la participation de la femme est très importante dans tous ces mécanismes.
Madame Rachel Mouloulou, merci.
Merci beaucoup.
C'était notre invitée Rachel Mouloulou et les points focaux de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité. Elle s'entretenait avec Bernadette Nyangui. Voilà qui met fin à ce journal parlé du matin, préparé pour vous par Lévin Mbouinga-Voubou et mis en onde par Dieudonné Nyangassa Wa Nyangassa. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Place à présent aux informations sportives avec Blaise Ndongala Mayanda qui vient de me rejoindre dans ce studio. Bonjour Blaise Ndongala Mayanda.